La nuit Chris Marker se poursuit sur France Culture en compagnie de Costa Gavras. Bonsoir Costa Gavras.
Bonsoir Alban.
Bienvenue dans les nuits de France Culture et merci de nous accueillir chez vous. Costa Gavras, la Cinémathèque dont vous êtes le président, consacre depuis le début du mois de mai une grande rétrospective et une exposition à Chris Marker. Un événement qui, on s'en doute, vous touche particulièrement, puisque vous avez été l'un de ses amis proches. Mais au-delà de ce lien personnel, que diriez-vous pour convaincre ceux qui ne les connaissent pas, particulièrement les plus jeunes, de ne pas manquer cette opportunité de venir découvrir les films, mais aussi le personnage ou les multiples personnages de Chris Marker?
Chris Marker, c'est un personnage exceptionnel dans le cinéma français et même dans le cinéma mondial. Sa vie, son œuvre, sa façon de faire les films est unique. Et la cohérence de sa vie est aussi unique. Et je pense qu'il est un cinéaste qui ne tenait pas absolument à voir son nom un peu partout, etc. Ce qui l'intéressait, d'abord, c'est de faire les films, de créer les films, et aussi, d'une certaine manière, de faire de la didascalie des films, expliquer l'éducation au cinéma. Il disait même à un moment donné qu'il fallait que le cinéma soit la base de l'éducation. Et je le crois de plus en plus.
Quand et dans quelles circonstances avez-vous rencontré Chris Marker?
J'étais assistant, on faisait un film sous le jouet et on savait à Paris que Chris venait d'arriver de New York avec un robot du film Planète Interdite. Un fameux robot d'un fameux film. Et alors, il voulait l'avoir dans le film. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé l'adresse de Chris. Je l'ai visité, je lui ai demandé. Il me l'a prêté, je lui ai rendu. Comme ça, c'était la première rencontre avec lui. Et après, je l'ai rencontré chez Les Montants. J'étais invité à la campagne chez Les Montants. Il était là souvent. Et depuis, c'était dans les années 60, au début des années 60. Et on a eu une relation jusqu'à la fin de sa vie.
Vous avez été l'un des témoins de l'amitié donc qui unissait Simone Signoret et Chris Marker. Qu'est-ce qui rapprochait ces deux caractères, ces deux personnalités, selon vous?
Je crois que c'était essentiellement le caractère exceptionnel qu'ils avaient tous les deux, la vision du monde aussi exceptionnelle. Et aussi, cela avait commencé, je crois, au lycée, parce qu'ils habitaient à Neuilly tous les deux, ils ont dû se rencontrer à Neuilly. Et le professeur de Simone à l'époque, un des professeurs, c'était Jean-Paul Sartre. Et je crois que Chris n'en avait pas approché Sartre malgré son intérêt pour la philosophie. Alors, ils en parlaient. Comme ça, très souvent, à la campagne, vous voyez, ils s'éloignaient, ou à Paris, ils s'éloignaient, ils parlaient des choses que personne ne savait. C'était mystérieux aussi, mais ça, c'était un tout petit peu cette espèce d'affection profonde qu'il avait l'un pour l'autre.
Qu'est-ce qui rassemblait Chris Marker, vous-même, Semprune, Signoret, Montand, la famille de la roulotte de la place Dauphine et de la campagne d'Auteuil? Et quelle place tenait Chris Marker dans cette famille?
Je pense qu'il tenait une place assez exceptionnelle grâce à ses rapports avec Simone et puis avec le respect que lui a prêté Montand. Et moi, j'étais là, l'invité, et puis je suis venu peu à peu part de la famille, parce que à cause des films que je fais, donc ça m'a beaucoup rapproché avec tous les deux. Et naturellement, avec Chris aussi, qui lui s'intéressait beaucoup à la Grèce, et qui se faisait à la Grèce, du cinéma aussi, de mon cinéma, et on était devenus, le long des années, très 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 proches, oui. Point que, par exemple, pour l'aveu, vous le savez peut-être, il avait des difficultés, des acteurs refusaient de faire le film, etc. Et il me dit un jour, qu'est-ce que je peux faire dans le film? Alors je me suis amusé, je lui ai dit, Chris, tu fais un des qui font des interrogatoires. Il m'a dit, non, je ne vais pas faire ça, mais je vais faire la photo du film. Il était le photographe du plateau, et il était en même temps, il a fait, disons, le premier making-of, comme on dit aujourd'hui. Et c'est un admirable petit making-of qu'il a fait le tour des télévisions et presque du monde. Et naturellement, tout cela nous a beaucoup rapprochés.
Dans cette famille de Marker, vous-même, Semprune, Signoret, Montand, les disputes politiques n'ont pas atteint l'amitié. À quoi cela a-t-il tenu, Costa Gavras?
Ça tenait au fait qu'aucun d'entre nous n'était fanatisé. On parlait de la politique, comme on parle des grands problèmes de la société, sans avoir des credos définitifs, en étant très critiques. Et cela a commencé par Georges Semprune et par Simone sûrement. Et moi et mon temps, nous étions méditerranéens, évidemment, on avait tendance à... Mais Chris venait dans tout cela, et le calme s'établissait très très vite, et la discussion commençait. Et ça, c'était fascinant. En tout cas, pour moi, un jeune homme, parce que j'étais une génération plus jeune, et c'était fascinant. C'était des leçons de civique, les leçons de société, des leçons politiques aussi extraordinaires.
Les divergences politiques ou artistiques, peut-être, ont-elles été parfois profondes ?
Non, jamais. Jamais, puisqu'on allait au fond de la discussion, de l'explication de chacun, de ce qu'il ressentait, et le fait aussi qu'on respectait l'opinion de l'autre.
Chris Marker parlait-il volontiers de son travail, de ses films, de ses projets en cours ? Réservait-il à ses amis les premières projections ? Était-il à l'écoute de leur avis, de leurs remarques ?
Je crois. Il aimait montrer ses films, il écoutait, je ne sais pas ce qu'il en faisait après. Parce que Chris était totalement indépendant, il était très ouvert aux opinions des autres, en tout cas très ouvert aux opinions de Semprun, de Montand, de Signoret aussi, parce que Signoret avait une opinion toujours très nette, très claire et très directe, sans compliment.
Une parole très franche.
Très franche. Mais alors Chris, après, c'était son film. Et je crois que c'était bien comme ça.
Vous dites que Marker, comme Semprun, vous a appris à raisonner, à sortir du pour ou contre.
Ils m'ont appris surtout à ne pas être fanatique, parce que je venais d'un pays où le fanatisme était vraiment partout, et sûrement, ils m'ont appris de réfléchir avant de prendre une décision, avant d'avoir une opinion. Et ça, c'était parce que je les voyais réfléchir eux-mêmes. Donc, c'était une leçon parfaite.
À propos de Marker, vous parlez d'honnêteté en politique, comme dans son cinéma. À propos de lui, c'est d'ailleurs un mot qui revient souvent. C'était quoi cette honnêteté ?
L'honnêteté, c'est de ne pas rejeter l'opinion de l'autre immédiatement. D'aller là où les choses se faisaient, comme il était à Cuba, par exemple, comme il était en Corée du Nord, comme il était en Union soviétique, en Sibérie, un peu partout, pour voir ce qui s'est passé. Il revenait avec un film, en tout cas avec sa propre opinion qu'il avait formé sur place, en rencontrant des gens, en voyant la situation. Ça, c'était la grande honnêteté. Et je ne l'ai jamais vu être contre, violemment contre, dire « non, ça ne marche pas ». Non, il y a toujours quelque chose d'humain à chaque fois, et c'est là qui l'intéressait profondément.
Vous parliez de la Sibérie, l'être de Sibérie, Sibérie, c'est un film qui vous a marqué, je crois.
Profondément, parce que je ne les connaissais pas, ou j'avais juste rencontré pour la première fois. J'ai vu le film, je me souviens très bien de la salle, le soir, etc. C'était Boulevard Raspail, et ça m'a bouleversé comme film. J'ai dit, voilà ce que le cinéma peut rencontrer.
Chris Marker cultivait son mystère avec ses multiples pseudonymes. Il brouillait les pistes, sa vie, ses relations étaient cloisonnées. On dit parfois que chacun avait son Chris Marker. Du vôtre, de celui que vous avez connu, longtemps côtoyé, si vous deviez garder un souvenir, un moment, un épisode, quel serait-il et dans quel coin de la planète se passerait-il ?
Oh, ça s'est passé sûrement. Ça s'est passé sûrement en France, ça s'est passé pendant le tournage de l'aveu, parce qu'il y avait des scènes très très difficiles, où je me souviens d'une scène où Montand m'a dit « mais tu te rends compte ce qu'on dit ici ?» par rapport à... Parce qu'aujourd'hui tout ça paraît très facile, mais à l'époque c'était vraiment très violent. Et Chris m'a approché, il me dit « ce que vous dites là, c'est ce qu'il fallait dire », il me dit, voilà. Et ça restait là, et c'était la parole sage.
Chris Marker aura été l'un des grands témoins de la deuxième moitié du XXe siècle, l'un des plus attentifs et des plus impliqués, et qui, à sa manière, en aura été l'un des historiens. Mais ne peut-on pas dire qu'il en était aussi peut-être un poète ?
C'était sûrement un poète. Et probablement, c'était avant tout un poète. Un poète qui voyait la vie, le monde, avec un regard de poète, et d'une certaine tendresse, je dirais, et d'une grande curiosité. Et je pense que ça dure. On peut le rencontrer dans tous ses films, et on peut le voir dans chacun de ses films, comme du Vietnam, comme sur la jetée, etc. Non, c'était un poète.
Raymond Bellour dit de Chris Marker qu'il était un homme-monde.
Un homme ?
Un homme-monde.
Oui, parce que comme je vous le disais, il allait partout où les choses se passaient. Quand je préparais l'état de siège, par exemple, il a su que j'allais au Chili tourner pendant un long moment, et ça l'a intéressé. Je lui ai dit, mais viens avec nous au Chili. Il est venu avec nous au Chili, on est resté plusieurs semaines, nous, pour le tournage. Lui, il a disparu. Et peu à peu, j'ai appris qu'il avait rencontré tous les jeunes Chiliens, et pour leur expliquer le cinéma, pour leur apprendre, d'ailleurs, ce qu'ils disent dans certains d'entre eux, c'est qu'ils ont appris grâce à Chris Marker. Donc c'était ça, le monde. Comme je dis, il y a aussi, on n'en parle pas beaucoup de cela, parce qu'il est venu avec beaucoup d'amertume, je dirais, aux colonies libérées du Portugal. Et il a commencé, il a fait le même système, rencontrer d'abord, comprendre, et éventuellement filmer, et enseigner. Et là, il s'est passé quelque chose qu'il n'a jamais raconté, ou très peu. Il dit non, c'était pas très intéressant, tout ça, etc. Il est parti. C'est le monde intéressé. C'est un monde, donc, sûrement.
Et un homme siècle, ajoute aussi Raymond Bellour.
Oui, sans aucun doute, oui. D'ailleurs, c'est parallèle de cela, ça serait quand a commencé le numérique, par exemple. Il m'a dit un jour, voilà, ça c'est le futur. Moi, je trouvais ça un tout petit peu, au début, bon, comme un gadget, qui pouvait servir pour téléphoner, pour faire des messages. Mais non, il m'a dit, tu vas voir, ça va tout changer. Et c'est vrai que ça a tout changé, mais lui, il était un des premiers, à mon avis, de l'avoir compris.
Que souhaiteriez-vous ajouter sur Chris Marker, Costa Gavras?
Non, je peux ajouter son exemplarité. Comme je disais un tout petit peu au début, c'est que son exemplarité, sa façon de faire du cinéma, vous savez, des films, il signait pas, il les signait à la fin, avec le montage de Chris Marker ou participation de Chris Marker.
Composé par,
voilà, exactement. Composé parce qu'il réunissait tout le matériel, il réunissait aussi des personnes pour faire des films comme Loin du Vietnam. Et donc, il ne voulait pas être le chef, il devait être parmi les créateurs. Et ça, c'est exemplaire, je crois.
Merci, Costa Gavras.
Merci à vous.
Je signale aux auditeurs que vous avez récemment publié un livre de mémoire aux éditions du Seuil sous le titre « Va où il est impossible d'aller », un livre dans lequel on retrouve bien sûr Signoret, Montand, Sempoun, Marker et tous ceux qui ont accompagné votre parcours. Nous retrouverons Raymond Bellour et Christine Van Hach dans 1h30 après avoir écouté Maroussia Vossen et Anna Dubosc dans Ping Pong de Martin Kénéen et Mathilde Serrel en 2016, puis André Martin parler de Sans Soleil de Chris Marker dans Le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe en 1983. La nuit, Chris Marker se poursuit sur France Culture.